Plus de 20 ans après la publication de votre ouvrage à succès intitulé « Service compris », vous êtes de retour avec « Service gagnant » qui vient de paraître chez First Edition. Ralph Ababou, bonsoir.
Bonsoir.
Alors qu'est-ce qui vous a poussé à écrire la suite après toutes ces années, après quasiment 20 ans ?
Oh ben j'ai réfléchi à ce qui se passait dans le monde de l'entreprise et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même eu deux phénomènes majeurs qui étaient arrivés en 20 ans. Hein, je crois que c'est d'abord l'avènement du high-tech, hein, que je compare à un tsunami parce qu'il a vraiment, personne ne s'y attendait, il a bouleversé tout le monde et après son passage, bah, tout est à reconstruire. Hein. Il y a des milliers d'exemples de ce qui se passe au niveau de la high-tech. Et puis aussi bien sûr l'émergence de ce qu'on appelle le phénomène low-cost. Le fait qu'aujourd'hui pour des fleurs, un billet d'avion, même des maisons, on peut trouver beaucoup moins cher. Et c'est intéressant parce que ça signifie que l'entreprise qui veut vendre plus cher avec un service, eh bien, il faut véritablement montrer la différence de ce qu'on apporte en plus. Je crois que le client est prêt à payer plus cher, mais si le service que l'on apporte est véritable. Et je crois que c'est très intéressant de voir ce bouleversement de la consommation où aujourd'hui, ben, c'est intéressant d'acheter plus cher. C'est même à la mode, hein. Il y a rien de plus malin que d'avoir voyagé sur EasyJet ou d'avoir acheté telle marque de pâtes pas chères du tout. Et puis, le consommateur n'hésite pas à tout mélanger. Le summum du summum, c'est d'acheter des pâtes chez Lidl, le moins cher, et puis d'y ajouter une sauce de chez Ediard qui est délicieuse, de consommer tous les jours une huile de base achetée la moins chère possible, et lorsqu'on reçoit des amis, de leur mettre sur la table la belle bouteille d'huile d'olive bio, faite par tel élevage en Sicile, etc.
Alors on parlera tout à l'heure du prix, vous parlez du tsunami internet, bonne ou mauvaise chose? Parce que le tsunami, ça peut être vu comme une mauvaise chose.
Oui, c'est difficile de le comparer au tsunami, mais je dirais que pour moi c'est intéressant parce que vraiment personne n'avait prévu que ça soit d'une telle ampleur. Et ça a tout bouleversé après. Et c'est vrai qu'il a fallu complètement reconstruire. Qui aurait imaginé il y a 15 ans qu'on pourrait consulter ses relevés de sécurité sociale sur Internet, hein? Qui aurait pu imaginer que les banques se déchargent à ce point-là de tous les problèmes de au quotidien sur leurs clients? Je crois que qui aurait pu imaginer que lorsqu'on appelle un centre d'appel, et ben c'est quelqu'un qui est à l'autre bout du monde qui règle vos problèmes? Qui aurait pu imaginer tout ça? Donc je crois que ça amène les entreprises à complètement reconstruire leur relation aux clients et puis se rendre compte que maintenant, pour tout ce qui peut être fait de manière électronique et numérique, eh ben, on n'a pas besoin d'un être humain. Mais lorsqu'on a besoin d'un être humain, cette fois-ci, il faut avoir des gens disponibles, aimables, accueillants, compétents.
Alors, est-ce qu'avec Internet, les consommateurs n'attendent-ils pas plus de choses aujourd'hui? Est-ce qu'ils ne sont pas, vous employez même, je crois, le mot un peu une dictature à un moment du consommateur?
Oui, je dis que le client était roi. Aujourd'hui, il est devenu un véritable dictateur. C'est vrai qu'il a pris, je crois, conscience de son pouvoir d'achat. Hein, on la lui raconte plus. Il est parfaitement informé puisque ce qui a amené aussi Internet, c'est la transparence de l'information. Avant, quels sont les prix des billets Paris-New York? Bah, c'était impossible à savoir. On était obligé de s'en remettre à son agent de voyage. Aujourd'hui, je crois qu'il y a rien de plus symptomatique de cette technologie d'Internet que ce qu'on appelle les comparateurs de prix. Vous rentrez un prix ou un billet ou un produit et vous avez exactement en un clic, en quelques secondes, qui le vend le moins cher. Et donc, je crois que ça, c'est terrible parce que ça a complètement aplati la relation, hein, puisque Internet a des phénomènes, c'est que ça met vraiment le consommateur en direct avec le producteur et puis surtout ça rend l'information complètement transparente.
Transparente, mais est-elle fiable cette information? Et n'y a-t-il pas là un risque de service tout simplement? Parce qu'on parle de comparateur de prix, rien ne dit que ces informations soient fiables.
Alors ça, c'est effectivement tout à fait un autre sujet, un autre débat. Moi, je crois que surtout ce qui est intéressant, c'est que cette explosion d'Internet a complètement déstructuré la relation au client et ça a amené ensuite les entreprises à la reconstruire sur des bases différentes. Et quand on rajoute à la complication d'Internet, je dirais, le phénomène du low cost, hein, le fait que aujourd'hui on est vraiment attiré par ce qui est moins cher, il y a ce côté, il y a des gens qui sont prêt à faire 3 km le week-end pour payer tel produit 5 ou 10 centimes moins cher. Ça a vraiment amené, je dirais, et c'est très intéressant parce que moi, le sous-titre de service gagnant, c'est les secrets des entreprises qui créent la différence. Et j'explique qu'aujourd'hui, les entreprises sont obligées de faire la différence parce que on est dans un monde banalisé, standardisé, où tout le monde vend peu ou prou la même chose. On peut le faire de deux manières. Par le bas, effectivement, là, c'est la baisse des prix, c'est la guerre des prix. Il y a des secteurs qui sont en train d'en crever. Et puis, de l'autre côté, on peut faire la différence par le haut. C'est évidemment les services, hein, et toute une gamme de services, l'innovation et l'originalité. Et puis aussi, on voit apparaître cela aussi sur ce qu'on appelle le commerce équitable. Mais lorsque j'achète un produit un petit peu plus cher, je suis prêt à payer 10 centimes de plus mon paquet de café parce que je sais que quelque part, il y a des agriculteurs au fin fond du Costa Rica qui sont protégés, etc.
Alors, les secrets des entreprises qui créent la différence, donnez-nous quelques exemples, quelques cas d'entreprise.
Oh, écoutez, c'est difficile comme ça. Je prends un exemple dans le monde du café, justement, on parlait du café. Je dirais que regardez le marché du café aujourd'hui. Vous allez dans le plus bas, c'est vraiment le paquet paquets de café sans marque vendus par tel hard discounter connu et célèbre, avec aucune prétention si ce n'est que d'avoir du café. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est 80% du Robusta qui coûte beaucoup moins cher. Et vous avez de l'autre côté de l'échelle, vous avez le café Nespresso, où en fait, je dirais, le café, pour les taquiner, je dis qu'ils le vendent pratiquement au prix de la cocaïne, parce que c'est très cher. Mais vous avez le café, c'est un élément de tout un ensemble de services. Vous faites partie d'un club, vous avez l'impression de prendre votre café avec George Clooney à Hollywood. On s'occupe de vous. Si vous avez un problème avec votre machine à café, on vous la ramène, on vous la remplace. Enfin, vous êtes dans un univers où je dirais que le produit lui-même, le café, est environné dans une prestation globale de service.
Mais est-ce pas un petit peu inquiétant pour les entreprises qui, on est la société de consommation, c'était le milieu de gamme qui créait, qui faisait des volumes. Aujourd'hui, effectivement, la valeur se fait par le haut et par le bas. Quid du milieu de gamme demain?
Je trouve que c'est une très bonne question. Moi, j'écris dans mon livre que les marchés s'effondrent par le milieu. Hein, et on voit bien aujourd'hui que celles qui s'en sortent sont ceux qui développent la valeur ajoutée par le haut ou par le bas. Et puis au milieu, aujourd'hui, il y a des marques qui sont en train de mourir parce que qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la marque, de la mode? Pas tellement. Est-ce que ce sont les moins chers? Pas tellement non plus. Hein, et c'est pour ça que j'ai une partie d'ailleurs qui s'intitule « Qui souffre par l'ours et le crocodile ». Si c'est à ça que vous faites référence, je dis mais lorsqu'un ours ou un crocodile se battent, lequel va l'emporter? Alors certains me disent ça peut être l'ours parce qu'il est plus gros, plus puissant, d'autres le crocodile, et la réponse elle est toute simple, c'est de dire tout dépend sur quel terrain ils se battent. Hein, on sait que s'ils sont dans un marécage, il y a des chances que ce soit le crocodile qui l'emporte, et sur la terre ferme c'est l'ours qui va l'emporter. Et je prends cette image pour expliquer qu'aujourd'hui qui va l'emporter demain, est-ce que c'est le prix ou est-ce que c'est le service? Et c'est simplement tout dépend sur quel terrain vous vous battez. Moi il me semble que nous n'ayons pas en France dans nos entreprises avec les conditions sociales qui sont les nôtres tout ce qu'il faut dans notre ADN pour être les champions du low cost. Regardez, les champions sont plutôt des Allemands ou des anglo-saxons. En revanche, on a tout ce qu'il faut pour être des gens spécialistes de l'innovation, de la différenciation, dans le talent, dans la gourmandise, l'innovation, l'imagination. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut aller pour s'en sortir.
Donc il faut trouver des éléments de différenciation, c'est ça l'avenir pour les entreprises françaises?
Impérativement. Je crois qu'elles ne pourront plus se battre. Enfin, ce qui a changé aussi, je dirais qu'il y a 20 ans, lorsqu'on parlait de la Chine, il y avait 1 milliard d'individus sous la coupe communiste, et l'Inde, c'était 800 millions de gens qui cherchaient à bouffer, si je peux me permettre. Aujourd'hui, et je cite Tom Friedman, l'auteur de La Guerre est plate, qui dit il y a 20 ans quand j'étais jeune, mes parents me disaient finis ta soupe parce que les Chinois et les Indiens ont faim. Et aujourd'hui il disait, j'explique à mes enfants, finissez vos devoirs parce que les Indiens et les Chinois veulent votre boulot.
Et les industriels peuvent avoir peut-être un raisonnement par pays, c'est-à-dire le haut de gamme, la valeur ajoutée dans des pays industrialisés, mais ce qu'on appelait aujourd'hui et ce qu'on appelle encore le milieu de gamme en France, pour d'autres pays, quand on en parlait tout à l'heure, tous les efforts de Danone pour les pays du tiers-monde.
Tout à fait. Alors, sans compter le fait que tout n'est pas si simple, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que il n'y a plus les catégories comme avant, les riches, les pauvres, les gens qui font des études, etc. Il y a certains riches qui, en fait, veulent... je cite cette phrase d'Edouard Leclerc qui dit « Les prix bas, les pauvres en ont besoin et les riches les aiment ». Donc, je disais, aujourd'hui, on a envie de payer moins cher et on est attentif à ça. Donc, je crois que c'est pas si simple. Et puis, il peut y avoir un jeune qui va dépenser une fortune dans une moto et puis, dans le même temps, acheter pendant 10 ans des yaourts pas chers.
Je confirme que les magasins de hard discount marchent très bien dans le 16e arrondissement à Paris.
Voilà, et de la même manière, la concession Renault qui vend le plus de Logan, elle est à Paris dans le 16e. Donc voilà ce qui prouve.
Mais aujourd'hui, est-ce qu'une entreprise peut réellement se différencier? Est-ce qu'il y a des moyens, des outils, ou est-ce que tout le monde applique un petit peu la même recette?
Alors moi je crois que oui, il y a des outils. Un de ces outils, je dirais, il n'est pas forcément le plus facile, mais c'est à mon avis le plus durable, c'est justement l'état d'esprit service et la notion de service. Je lisais ce matin un article sur Tesco, cette chaîne anglaise, qui a toujours mis en haut de sa philosophie la notion de service, la notion d'accueil. Je cite souvent dans mes conférences le slogan de Stu Leonard, qui est une chaîne de supermarchés américaine connue dans le Connecticut, et quand vous entrez dans leur magasin, vous avez un énorme bloc de granit qui mesure 2 mètres et dans lequel il y a marqué « Règle numéro 1, le client a toujours raison ». Et en dessous,
un magasin extraordinaire, je confirme.
Voilà. Et en dessous de la règle numéro 1, la règle numéro 2, si jamais vous trouvez que le client a tort, relisez la règle numéro 1. Donc comment se différencier? Avoir toujours ce souci. Et on peut remarquer dans certaines de nos entreprises françaises de distribution ou ailleurs, à un moment on donne un petit coup vers le service, alors tous les slogans vont là-dessus, et puis du jour au lendemain, du coup on baisse les coûts, il y a moins de personnes, on fait la queue au rayon traiteur, etc. Et c'est ça le problème, de choisir son camp et de s'y tenir.
Je ne dirais pas non, mais je n'en pense pas moins. Il y a des enseignes qui veulent communiquer à la fois sur le prix bas et à la fois sur le CR. Service, à la fois sur la traçabilité, à la fois sur leur premier prix. Donc là, c'est la cacophonie générale.
Exactement. Là, on ne sait plus qui est quoi et on ne sait plus ce qui se passe. Je crois qu'on a intérêt à avoir un message et de s'en tenir à ce message, qu'il soit du prix ou du service.
Vous pensez quoi des entreprises françaises par rapport aux entreprises étrangères sur cet aspect du service et de la différenciation ?
J'en pense quoi? Je dirais que c'est mon gagne-pain aujourd'hui, puisque j'aide les entreprises en faisant des formations et des conférences à améliorer cela. Je crois fondamentalement que, paradoxalement, les Français adorent rendre service, mais on n'aime pas être au service. Il y a un vrai problème culturel là-dessous. Et je crois que, justement, tout ce que j'essaie d'expliquer, c'est-à-dire que rien n'est plus important que de mettre le client au cœur de l'organisation. C'est quand même lui qui paye nos salaires, c'est de lui que dépend la vie et la mort des entreprises. Et on a tendance parfois un petit peu à l'oublier. Donc moi, je leur conseille d'avoir ça comme philosophie, d'investir sur le service. On peut voir sur le débat, sur les caisses automatiques, enfin les caisses où le client sert tout seul. Bah, franchement, entre avoir une caissière désagréable qui vous fait la tête ou le faire moi-même, j'avoue que n'hésite pas une seconde. En revanche, si on me prouve tous les jours que j'ai des caissières sympathiques, aimables, qui aiment rendre service, qui vous parlent, dans ce cas-là, elles deviendraient irremplaçables. Donc je crois qu'il ne faut pas se tromper de débat. Aujourd'hui, la valeur humaine, c'est vrai qu'elle coûte, elle représente un certain coût, mais il faut aussi que le client ait le sentiment d'en avoir pour son argent.
Les Français mettent suffisamment d'argent, les entreprises françaises, dans la formation justement du personnel?
À mon avis, pas de manière tout à fait insuffisante, hein. C'est parfaitement clair. Je sais que à mes débuts, il y a 20 ans, les formations duraient 2 jours. Aujourd'hui, c'est presque, ils n'ont pas de faire des formations qui durent 20 minutes entre 2 pauses café. C'est pas possible. Je crois que c'est aussi un investissement. Moi, les entreprises que je rencontre me disent, écoutez, nous, on investit aujourd'hui dans 2 domaines. On investit dans le domaine de la high-tech, évidemment, de tout ce qui est nouvelles technologies, et puis on investit dans l'humain. La matière humaine, elle devient plus rare, donc du coup, elle devient plus chère, et il faut la s'en occuper bien.
C'est un problème de motivation, c'est un problème d'investissement, d'argent, comment vous le ressentez, ou des deux?
Oh, moi j'ai envie de dire c'est un problème de volonté stratégique du chef d'entreprise. Hein. Vous savez, les entreprises ressemblent à leur patron. Elles sont conviviales là où le patron est convivial et elles sont dramatiques là où le patron ne pense qu'à ses résultats et autre chose. Donc je crois qu'elles dépendent vraiment de la volonté. Je crois que si les entreprises, en 20 ans, j'ai constaté qu'il y avait des progrès qui avaient été réalisés mais pas suffisamment, c'est simplement que le patron n'a pas voulu suffisamment. Lorsqu'un patron décide d'augmenter sa rentabilité, en général, il y arrive. Donc est-ce que les entreprises françaises, les patrons, ont suffisamment voulu améliorer le service au client? J'en suis pas si sûr.
Merci Ralph Ababou. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Service Gagnant qui vient de paraître chez First Edition et qu'il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Eh bien, LSA Conso se termine. Merci à tous nos invités. Rendez-vous la semaine prochaine à 23h sur BFM. Bonne soirée et bonne semaine.